Vous écoutez
RMC.
Bon, mais d'abord, donc les infos du jour. Donc je vous fais une liste de joueurs toujours qualifiés au mondial et aujourd'hui sans club. Il y a de quoi faire une belle équipe. Hein. Casemiro, parti de Manchester.
Je le prends pas.
Fabinho, plus de contrat en Arabie Saoudite.
C'est un peu de la fin. Là, tu nous annonces c'est un peu de la fin de série, là.
Ah, peut-être, mais bon. Mohamed
Salah. Ça, c'est des fringues qui étaient à la mode. Là, on est dans un outlet, mais très très loin.
Hein. Mohamed Salah.
Bah, c'est pareil, pardon. C'est pareil, c'est les anciennes collections. Hein.
Luka Modric.
Ça, tu fais exprès.
c'est la liste. Qu'est-ce que vous voulez? James Rodriguez.
Pareil.
John Stones n'est plus à City. Alaba n'a pas de club. Meunier n'a signé nulle part pour l'instant. Thomas Meunier.
Meunier, ça n'a pas encore officié.
Thomas Partey, qui en plus des affaires extra-sportives qui le concernent, n'est plus à Villarreal. Ben Taleb, pareil, plus de club. Schlager, l'Autrichien.
Ben Taleb,
fin de contrat.
Bah oui.
Avec
Lille.
Il est en fin de contrat.
Ouais.
Lui, il est pas. Lui, il va trouver un club. Il y a pas de...
Bon, voilà. Voilà pour les principaux. J'ai aussi.
Après, le reste, ça fait une belle équipe, mais à l'EHPAD.
Bon.
Non, à l'EHPAD, non.
Modric, tout ça, à la limite, ils peuvent te rappeler et tu rejoues un peu, hein, si tu veux.
Modric, oui, mais d'accord. Mais ils vont quand même trouver.
Bon, le truc, c'est qu'en termes de gestion de carrière, effectivement, quand c'est comme ça, Sam, tu peux signer une belle prime à la signature quand t'es libre.
Oui,
mais là, mec, il se blesse, par exemple, à la Coupe du Monde, t'es pas bien, quoi.
Ouais, mais ça, c'était déjà à l'époque, hein, ces choses-là de « je suis libre, je reste libre pour signer une grosse prime à la signature ». Il n'y a plus les mêmes revenus qu'avant, hein. C'est plus pareil. Hein. Maintenant, les joueurs qui sont comme ça en fin de contrat, la plupart, ils prennent ce qu'ils ont et voilà. Et c'est, à part si vraiment t'es un top joueur, là, oui. Mais sinon, là, l'heure actuelle, être en fin de contrat, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Et il n'y a pas vraiment... Comme à l'époque, oui, cette prime à la signature qui était importante quand tu étais en fin de contrat et que tu signais dans un club.
Bon, à suivre donc le parcours de ces joueurs. J'aimerais qu'on parle un peu du Sénégal, parce que Pape Thiaw se fait complètement dézinguer au Sénégal depuis hier, par un peu tout le monde, les supporters, les médias. On cite une gestion humaine et tactique catastrophique, ce qu'on dit au Sénégal, c'est ça. Et alors, cerise sur le gâteau, Pape Gay, qui est quand même un des meilleurs Sénégalais sur le terrain de la Coupe du Monde, a fait un message Instagram hier en disant « Je me retire de la sélection tant que ce staff technique sera en place ». En gros, je veux plus avoir affaire à eux. Donc, en général, quand un joueur fait ça, bon, c'est qu'il y a quand même un gros souci entre au moins une partie de l'équipe et le sélectionneur.
Bah déjà, il faut rappeler quand même que au début de la Coupe du Monde, était sortie l'information disant qu'il n'avait pas de contrat et qu'il se passait des trucs pas bien à l'intérieur du groupe, que les joueurs n'étaient pas contents, et on avait bien senti que l'information, elle était pas venue comme ça par hasard. Qu'elle avait été instrumentalisée ou en tout cas livrée à des journalistes et qu'elle sortait du camp du sélectionneur. Puisque la réponse de la Fédé était un peu opposée à cette première information. Et là, clairement, on a senti qu'il y avait une forme de scission. Mmh. Est-ce qu'on est allé jusqu'à sentir assez que la scission, elle était à l'intérieur du groupe même? Ça, peut-être pas. Quand j'ai lu la déclat de Pape Gueye, qui est un joueur important de cette sélection, là, clairement, il y a rupture avec le sélectionneur. Alors qu'en c'était quoi? C'était au mois de janvier?
Bah oui.
La CAN. Ça s'est quand même très vite dégradé. Hein. Très, très vite dégradé.
Ouais, c'est vrai.
Mais de toute façon, c'était pas un hasard quand l'information au début de la Coupe du Monde est sortie comme quoi c'était le bordel et rien n'allait.
Condition d'hébergement, ils n'étaient pas contents. Moi, certains joueurs commandaient leur repas à l'extérieur.
Moi, à ce moment-là, j'ai échangé avec quelqu'un de la Fédé qui m'a fait comprendre que ce qui se disait, il fallait faire attention et que il y avait un petit peu de l'instrumentalisation des médias pour faire passer des messages. À l'arrivée, je constate qu'il avait peut-être raison et que le groupe s'est fracturé autour du sélectionneur qui pourtant il y a 4 mois était un peu idole au pays quand même.
Tiens, je vous lis un extrait d'un journal sénégalais. Le titre, c'est « Comment le coach a offert la qualif à la Belgique ».
C'est sûr que le scénario ne l'aide pas.
Il dit le coup de poignard de la 120e porte la signature exclusive de Pape Thiaw. C'est un naufrage historique. Ce n'était pas celui des joueurs, mais celui d'une gestion humaine et tactique catastrophique en choisissant de reculer massivement, en installant un climat de peur avec des changements irrationnels, notamment le remplacement suicidaire de Pape Thiaw, de Pape Gay par un Lamine Camara complètement dépassé. Ça envoie. Hein, la presse sénégalaise, ils rigolent pas.
Non, mais c'est sûr que le scénario.
Ils sont déçus, comme disait Daniel. Voilà. Le scénario est dingue, une remontada comme ça. Et c'est vrai que quand tu fais sortir Pape Gay, qui est sûrement l'un des joueurs les plus importants au milieu de terrain, qui t'apporte cet équilibre-là, et sachant qu'il avait les jambes, on le sentait pas forcément fatigué, tu te poses un peu des questions. Donc oui, c'est normal que le peuple, on va dire, sénégalais se pose des questions, mais il y a quelque chose qui se passe dans le net et correct. Il faut creuser, je pense, pour savoir un peu ce qui se passe entre le groupe et le sélectionneur.
Alors, il y a autre chose sur les sélections africaines qui tournent, mine de rien, là. C'est cette fameuse gestion de la fin de match et, on va dire, parfois le manque de sang-froid de certains. La RDC est menée 1-0 et ça a tourné en fin de match. Bon, ok.
Ouais, enfin, là, qu'est-ce que tu veux dire? Les RDC, ils sont largement inférieurs aux Anglais sur toute la rencontre. C'est déjà formidable qu'ils mènent 1-0. Après, ils résistent.
Le Paraguay a tenu, par exemple. Tu vois?
Ok, peut-être qu'en face, il y a pas Harry Kane, il y a pas Bellingham, et qu'à force de taper, ils ont fini par rentrer. Les Anglais, ils frappaient à la porte, ils ont fini par rentrer et défoncer la porte. Les RDC, franchement, par rapport aux qualités qu'il y a dans l'effectif, bon, déjà, t'es sorti de la poule, t'as joué ton 16e, t'as pas un tirage favorable parce que tu tombes contre l'Angleterre, que les RDC se fassent taper par l'Angleterre. Oh, regarde sur le papier la qualité des joueurs, ce que ça vaut sur le marché. Moi, jamais je vais aller taper sur la RDC. Ce qu'ils ont fait hier, déjà dans le match, franchement, c'est bien. Parce qu'en plus, ils n'ont pas fait exactement comme le Paraguay. Les RDC, ils n'ont pas monté un mur en ciment. Ils ont essayé de sortir parfois, tout ça. Aucun reproche pour les RDC. Tu perds contre l'Angleterre et contre un Harry Kane qui était en feu. Bon, non, rien à dire.
Bon, en tout cas.
Qui d'autre t'avais dans
la RDC?
Tu voulais mettre en avant peut-être une.
La Côte d'Ivoire aussi, fin de match? Tu vois, ils se prennent des buts en fin de match. Donc, sur les 5 dernières minutes, à chaque fois, les équipes africaines se sont fait avoir.
Bon, est-ce que tu vois, je sais pas leur fin de match en tête.
Je vais te retrouver le scénar. Donc, cette nuit, il y a l'Algérie. Voilà, faut bien blinder la. Bien blindé la
France. Ouais, mais tu vois, je vois pas en quoi ce serait un point commun. Ça va être le point commun à un continent.
Bah, il s'avère que c'est arrivé.
Ça va être un petit peu réducteur de dire ça. Je pense que chacun a sa culture, chacun a sa façon de voir le foot. Surtout en plus, la qualité des joueurs aussi, c'est ça qui peut faire. Est-ce qu'ils ont de l'expérience? Est-ce qu'ils ont joué des matchs de cette importance-là? Est-ce que plus
but de la victoire de la Norvège à la 88e contre la Côte d'Ivoire.
Ah oui, mais c'est
le but d'Allende.
Oui, le match de poule. Oui.
Non, c'était là le 16e.
Oui, le 16e, oui, pardon.
16e, Côte d'Ivoire, bon, Norvège.
Ça me revient. Ouais, bon, mais pareil, Côte d'Ivoire, non, je ne vois pas en quoi la gestion de fin de match, là, surtout qu'à ce moment-là, il y a un partout.
Oui, il y a un partout.
Non, je ne sais pas. Tu faisais référence à la phrase de Rudy Garcia.
Alors, Rudy Garcia, pour finir sur l'affaire, Rudy Garcia fait polémique, il a fait une sorte de démenti aujourd'hui. Il a dit, je cite, on connaît ces équipes, ils perdent la maîtrise tactique vers la fin de match. Alors, évidemment, tout le monde a dit, mais pourquoi il parle de quoi? Il veut parler des équipes africaines, là?
Juste lui demander.
Puisque la RDC était dans le même cas, puisque la Côte d'Ivoire était dans le même cas.
Je sais pas, il faut lui demander quelle équipe il visait. Est-ce que
et
c'est
en fait,
des
aujourd'hui,
équipes
il a dit, non, mais pas du tout, je parlais pas des équipes africaines, mais je parlais de ces équipes qui mènent et puis qui, en fait, perdent un peu les pédales. C'est de façon générique, pas du tout.
Rien n'est clair dans ce qu'il dit. Il faudrait qu'il précise de quoi il a envie de parler. Et après, on pourra répondre et essayer d'analyser. Là, je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Franchement, je vois pas. Je veux pas l'accuser de quoi que ce soit. J'aimerais juste comprendre ce qu'il veut dire parce que c'est vraiment. Après, les analyses de Rudy Garcia, qu'elles soient à côté de la plaque, c'est souvent quoi. Donc.
Deux petites infos pour conclure avant de parler du Portugal.
Samuel, t'as compris quoi dans ce qu'il dit?
Moi, honnêtement, j'ai essayé de comprendre. Et au final, j'ai pas forcément la réponse parce que tu sais pas quel genre d'équipe, tu sais pas de qui il parle, tu sais pas. Ouais, donc au final, j'ai pas envie aussi d'interpréter, de faire une mauvaise interprétation. Mais c'est vrai qu'il faudrait lui demander clairement de quelles équipes il parlait quand tu dis de ce genre d'équipe là.
Voir s'il se défile dans la réponse ou si vraiment il assume quelque chose. Et après, on se penchera sur le truc. Mais là. Et combien même, ce serait quoi? Ce serait les équipes africaines? Si on va dans l'analyse du pire, ouais. de l'interprétation. Et quoi, genre elles tiennent pas tactiquement ou.
Si il dit ça, il dit au final, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est quelque chose de méchant, est-ce que c'est
moi, ok. Écoutez ce qu'il a publié sur Instagram. Rudy Garcia, il dit, pour revenir sur la déclaration d'après-match et couper court à toute ambiguïté, en parlant de ces équipes-là, je sous-entendais des équipes qui n'ont pas l'habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau de la Coupe du Monde. En aucun cas, je ne visais les équipes africaines et aurais pu tout aussi bien viser des équipes asiatiques, sud-américaines, européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression. Voilà. Voilà ce que dit.
Là, c'est complètement con parce que le Sénégal, ils ont. Si le Sénégal subit pas de la pression quand ils jouent la CAN, ou par exemple, ne serait-ce que la dernière finale de la CAN en termes de pression, non. Enfin, après, tu peux accuser le Sénégal d'avoir mal géré la fin de match, d'avoir trop reculé, d'avoir fait plein de choses pas bien. Mais si le Sénégal doit entrer dans la catégorie, ces équipes-là, en plus, c'est que des mecs qui jouent en Europe, qui ont l'habitude de. Non, là, ça me paraît pour le coup complètement con comme phrase, du coup, là.
Deux petites infos, les gars. Vas-y, Sam.
Je pense qu'il devrait vraiment plus se focaliser sur son équipe, moi, au lieu de parler du fait que les autres équipes ne peuvent pas. Après, au final, les gens vont commencer à mal interpréter, ça va très, très vite. Et là, on le voit, que les gens commençaient à dire certaines choses, mais. Mais après, c'est comme vous l'avez dit, sûrement c'est du Rudy Garcia.
Sachez que l'UEFA, qui déjà avait expliqué qu'elle ne mettrait pas en place les fameuses pauses pub dites cooling break pendant ces compétitions.
L'UEFA.
Oui, l'UEFA. Oui, l'UEFA a dit aujourd'hui qu'il ne suivrait pas la FIFA sur les cartons rouges pour les joueurs qui se couvrent la bouche. Voilà, on n'appliquera pas cette règle dans nos compétitions.
Alors, ça, moi, je me souviens. Enfin, moi, j'ai été quand même. Pris dans une tempête au moment de l'affaire Vinicius. Parce que, comment il s'appelait l'Argentin ?
Ah, l'Argentin de Cristiani. L'Argentin de Prestiani. L'Argentin de Benfica.
Où j'ai dit, si on a la certitude qu'il a vraiment dit ça, il faut que le mec soit suspendu à vie. L'insulte, qui était une lourde insulte raciste. Et j'ai dit, le problème, c'est que tout le monde est hypocrite. Parce qu'après, on n'agit jamais. Derrière, il y a eu le cirque avec Mourinho, il y a eu le type qui a dit « j'ai pas vraiment dit ça, j'ai dit ça comme ça, machin ». Et ce soir-là, on avait commencé à évoquer le fait de, effectivement, quand tu mets la main devant la bouche, bah écoute, on va dire « arrête de la mettre », et puis si tu la mets pas, comme ça, il y aura pas le doute. Il pourra pas dire « j'ai pas dit ça » ou « j'ai pas vraiment dit ça, machin ». Et l'UEFA, qui donne des leçons sans arrêt, qui fait toutes ses campagnes antiracistes, qui fait tous ces trucs-là et tout ça, là, ils arrivent, ils interviennent, ils disent « non, nous, on n'appliquera pas cette règle ». Bah, c'est complètement con. Applique-la, la règle. Comme ça, au moins, les mecs ne pourront pas se cacher si vraiment il lâche une insulte de ce type-là. Tu vois, bah, là, moi, je comprends pas. Là, moi, je comprends pas que l'UEFA fasse ça, quoi. Là, vraiment, moi, ça peut paraître absurde de prendre un carton rouge pour ça. Ça peut paraître absurde, mais une fois que les mecs l'auront complètement intégré, eh ben, au moins, tout le monde assumera ce qu'il a à dire, et s'il veut insulter un type, il aura qu'à assumer son insulte, et puis voilà. Alors après, oui, on va me dire, ah ouais, mais alors dans ces cas-là, fils de, ça va passer, et l'insulte raciste, ça va pas passer. Oui, il y a une différence. Il y a quand même une grande différence. C'est pas du tout la même chose. Donc.
Ouais, il y a une grande différence.
Ouais. C'est même pas qu'il y a une différence. Il y en a un, c'est, en tout cas, dans certains pays, c'est du pénal. Dans d'autres, peut-être pas. Mais en tout cas, si on veut vraiment arrêter ce genre d'insultes-là sur les terrains, si on veut plus en voir, il faut agir fort. Moi, j'avais dit ça après le Real Benfica. Si tu attrapes le mec, comme dans le public, quand un mec lâche une insulte ou jette je sais pas quoi, il a interdit de stade à vie, bah, le joueur de foot qui se livre à une insulte aussi lourde que celle qui est. Parce que finalement, on l'a jamais su, ce qui avait été dit ce soir-là. Bah, il faut agir fort.